BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est chacun certain de percer le restant de nos jours et la blockchain en contient une fraction. La blockchain, les cryptos sont à l'honneur chaque vendredi grâce à nos pros des cryptos. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, est avec nous en ligne. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Owen Simonin et sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen. Ravi de vous retrouver. Et à la tête également Owen de Just Mining. Vous êtes au cœur d'ailleurs de l'actualité cette semaine, Owen, avec des questions autour de l'effondrement d'un stablecoin. Il faudra bien sûr qu'on en parle tout à l'heure. D'abord, Xavier, c'est la tempête sur les cryptos. Dans la tempête, on a besoin d'un phare. Le premier phare, c'est peut-être de rappeler à chacun de ceux qui nous suivent que l'on investit en crypto, que l'argent que l'on est prêt à perdre et que tout cela reste très spéculatif. Après un début d'année morose, d'ailleurs, tout s'est accéléré, Xavier, à la baisse cette semaine. Le Bitcoin est passé sous les 30 000 dollars. L'Ether sous les 2 000 dollars. On a franchi les unes après les autres toutes les lignes rouges. Que reflète ce plongeon soudain et qu'est-ce qu'il explique techniquement ?
Bah, c'est vrai que on a connu une purge. Alors même si aujourd'hui, en ce vendredi, on repart un peu dans l'autre sens, on respire un petit peu. C'est vrai qu'il y a une purge, une crise de panique, voire peut-être même d'ailleurs une crise de confiance, au moins de manière temporaire. Depuis le début de l'année, c'est plutôt bien. Hein, sur le Bitcoin, on était entre 35 000 et 45 000 dollars, donc la tendance qu'on appelle une tendance neutre. C'est vrai que, vous l'avez dit, tout s'est accéléré pour trois raisons. Premièrement, le marché des cryptos est corrélé au marché traditionnel. Alors parce qu'il se professionnalise, parce qu'on a les mêmes automatismes, on sait que sur les marchés traditionnels, c'est vrai que c'est pas la joie. On a notamment ces spikes de l'inflation, resserrement monétaire, guerre en Ukraine, récession, bref, et j'en passe. Et il n'y a pas vraiment de visibilité. Donc forcément, quand ça va pas très bien sur le marché traditionnel, les cryptos ont plus tendance à suivre et on en parle souvent notamment de cette corrélation. Deuxième chose, c'est quand le marché dans son ensemble est sous pression, cette pression constante, à force que le temps passe, on se pose des questions et notamment les investisseurs sortent du cash. Et on sort du cash où ? Sur les marchés qui sont peut-être plus volatiles, plus petits. Donc on jette un petit peu tout et n'importe quoi, peu importe les fondamentaux, la technique, et après on réfléchit. C'est vrai que le marché des cryptos est encore petit, 1400 milliards de dollars, on est passé un peu en dessous, plus que simplement la capitalisation d'Amazon. Donc forcément, ce marché des cryptos amplifie les mouvements. Et au sein même de la crypto, on en a parlé déjà ensemble il y a quelques jours, il y a alors les deux grosses, hein, Bitcoin, Ether, et puis après il y a tous les autres altcoins. C'est vrai qu'on sort d'abord des altcoins, parce que là aussi c'est encore plus petit que Bitcoin, Ethereum en termes de valorisation, de liquidité, et c'est beaucoup plus rapide. Et la troisième chose, vous en avez parlé tout à l'heure, on investit l'argent dont on n'a pas besoin, et encore moins, plus que ce qu'on a sur son compte. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et on a eu cette semaine des liquidations et les plus grosses de l'année. Lundi, 1 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont un capital de 1000 dollars, investissent peut-être 10 fois plus que ce qu'ils ont. Donc quand tout va bien, super, on multiplie les gains par 10. Sauf que quand tout va mal, ça s'accélère très rapidement, et il y a des comptes qui s'approchent de zéro. Donc les brokers coupent les positions, vendent les positions, et ça entraîne après le voisin, etc., etc. Donc lundi, on a eu 1 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées, mardi presque autant, mercredi 750 millions de dollars, ça a alimenté tout ça. Et malheureusement, alors c'est peut-être un mal aussi pour un bien, parce que on a vu dans le passé qu'il faut passer par là aussi pour assainir le marché à court terme. Bref, donc ces trois éléments, corrélation, pression constante et liquidation, ça a donné un cocktail explosif, à court terme en tout cas, même si en ce vendredi on limite la casse.
Et alors, et maintenant, quel point de repère permettrait de déterminer qu'on entre dans un marché baissier durable, ou à l'inverse, soyons optimistes, à quel moment est-ce qu'on pourra penser, Xavier, que c'était finalement une purge à court terme pour mieux rebondir à long terme ?
Alors là, c'est la définition du marché baissier et tout le monde n'est pas d'accord. Sur le marché traditionnel, c'est assez simple. 20% de baisse sur le marché, c'est un bear market, c'est un marché baissier, point barre, on passe à autre chose. Sur les crypto-monnaies, on peut pas dire ça parce que c'est beaucoup plus volatile et faut regarder aussi dans son ensemble. Donc c'est pour ça que on prend des points de repère beaucoup plus larges, parce que vous prenez par exemple 2021, qui a été une année sur les altcoins. Par exemple, Solana qui a fait x200. Combien de fois pendant cette période où elle a été multipliée par 200, elle a perdu 20%, des dizaines de fois peut-être plus. Donc on peut pas partir de ce principe-là. Donc c'est pour ça qu'on utilise des unités de temps longues, ce qu'on appelle des unités de temps weekly. Donc une bougie égale une semaine. Sur le Bitcoin, depuis un an et demi, on est entre 30 000 et 65 000 dollars. Vous allez me dire, c'est pas une fourchette, c'est plus un râteau, c'est vraiment très très large, mais c'est comme ça en fait qu'on doit opérer et regarder le marché. Sur l'Ether, c'est 1 700 dollars en bas, 4 100 dollars en haut, et ce qui nous donne un range à long terme. Donc tant qu'on ne s'installe pas en dessous de ces zones, si je prends le marché plus globalement sur la capitalisation totale, c'est 1 200 milliards de dollars et 2 500 milliards de dollars. Tant qu'on ne s'installe pas en dessous de ces bornes basses, on n'est pas en bear market, donc en marché baissier durable. Attention, bien évidemment, sur les altcoins, après, il faut aller au cas par cas. À court terme, on a eu un spike. Des mouvements, ce sont des mouvements positifs ou négatifs d'ailleurs, qui sont très importants sur une courte durée. Que je disais tout à l'heure, faut passer par là pour assainir le marché. Donc ça va nous donner aujourd'hui, c'est ce qu'on a eu hier, un point de repère, d'un point d'arrêt de cette tendance baissière à court terme. Aujourd'hui, on devra s'installer au-dessus des, dans ces prochains jours et prochaines semaines, au-dessus des 35 000 dollars sur le Bitcoin, c'était la bande basse du range dans lequel on était depuis le début de l'année, et au-dessus des 2 400 dollars sur l'Ether pour souffler et considérer justement qu'on a vécu, comme vous le disiez, encore une fois, une panique, une purge dans une tendance long terme haussière. Alors attention, je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, on a des rebonds de 20% sur le Bitcoin, autant sur l'Ether, 50% sur les certains altcoins, comme Mana, sur la catégorie Metaverse, ou GMT, dans le Move to Earn. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Donc on va prendre du recul, on va garder notre calme en travaillant justement sur des bougies repères, et évitons de regarder justement les pourcentages de variation parce que ça nous incite à faire des choix émotifs. Donc à court terme, oui, on est baissier et c'est potentiellement pas fini cette période de volatilité. Je vais terminer donc sur cette note positive. On tient des bas de range moyen terme. À court terme, on a fait un spike, ce qui pourrait calmer un petit peu les ardeurs, mais ça sera toujours un marché très volatile tant qu'il sera en tout cas jeune et petit.
Quelques repères pour anticiper la suite, se méfier de soi aussi, c'est très important, les études comportementales dans cet univers de l'analyse technique et du trading. C'est un philosophe du 19e siècle qui expliquait que le pessimisme est d'humeur, l'optimisme, lui, est de volonté. Il en faut de la volonté en ce moment. Le marché, en tout cas, est tout rouge, malgré le rebond du jour. Sur la semaine, ça a été très compliqué. Tout le monde observe sans doute son portefeuille crypto avec consternation par ces temps compliqués. Il faut le reconnaître, le marché crypto est de plus en plus corrélé au Nasdaq. Et la lucidité commande aussi de constater que les mesures gouvernementales américaines sont de plus en plus rudes, Claire, vis-à-vis de l'écosystème. Et maintenant, le coup d'avance, Claire, qui rend ce rendez-vous les pros des cryptos plus que jamais nécessaire. Et maintenant, à quoi peut-on s'attendre sur les fondamentaux du marché crypto ?
Je pense qu'il faut effectivement prendre du recul dans ces moments-là. Dans les moments de forte baisse comme dans les moments de forte hausse, il faut se rappeler que le prix n'est pas la valeur. Il y a une valeur fondamentale au projet blockchain, notamment aux grandes blockchains comme Bitcoin et Ethereum. Le prix ne reflète pas toujours la valeur. Dans le prix, il y a aussi un artefact un peu psychologique, notamment dans des forts mouvements haussiers comme baissiers. On le voit en ce moment, on a eu un mouvement baissier assez fort cette semaine. Et donc, il faut prendre du recul. Et il faut se rappeler que le prix tend vers la valeur à long terme, même si à court terme, il peut en être décorrélé. Et sur Bitcoin, sur les grandes cryptos, les fondamentaux sont encore là. On a encore vu cette semaine, une banque brésilienne, Nubank, qui annonce qu'elle alloue 1% de son portefeuille à Bitcoin. Donc, on continue à avoir des signaux très positifs d'institutionnels. Moi, je le vois chez mes clients aussi. On a des signaux très positifs d'adoption des cryptos par les entreprises, notamment des grandes crypto-monnaies. Donc, il faut se rappeler, encore une fois, que toutes les crypto-monnaies ne sont pas les mêmes, mais que sur les grands protocoles, les fondamentaux sont là. Et donc, le marché reste... même s'il est difficile en ce moment, reste fondamentalement intéressant et il faut pas lâcher maintenant.
On a vu aussi Emirates, je crois, accepter les bitcoins désormais, par exemple, ou encore Goldman Sachs en collatéral d'un prêt de Coinbase accepter aussi les bitcoins.
On continue à avoir des signaux très positifs toutes les semaines malgré une baisse des cours soudaine.
Les cryptos vivent en tout cas un moment historique parce qu'on change de monde économique et c'est pas fini. On continue, vous qui nous suivez, on continue de vous aider à vous préparer au mieux à tous les possibles. Les cryptos n'ont pas exemple, jamais encore traversé de récession économique. Le marché crypto, depuis qu'il existe, depuis à peu près 13 ans, a toujours bénéficié d'un environnement économique global de croissance. Or, les économistes sont de plus en plus nombreux à désormais voir venir une récession aux États-Unis et en Europe. Dans un climat hostile, Owen, en cas de récession un jour, comment d'après vous les cryptos pourraient-elles réagir ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cryptos n'ont encore jamais vraiment vécu une récession de l'économie. Donc, c'est impossible de répondre. On ne peut que spéculer sur comment elles réagiraient. Tout ce qu'on voit, c'est que même si on n'est pas encore en tout cas, il n'y a pas de certitude sur une récession, il y a certains signaux alarmants. Principalement, le fait que la Fed arrête de faire des injections monétaires. Ensuite, la remontée des taux ou encore le lockdown en Chine qui vient ralentir l'intégralité de l'économie. Beaucoup, et je suis de cet avis, pensent que ça va être une épreuve par le feu. Sur du très court terme, et là je rejoins totalement l'analyse de Xavier, il y a de grandes chances que les cryptos se prennent une gifle, comme au début de la pandémie par exemple, parce que les investisseurs institutionnels ont besoin de liquidités, et les investisseurs du monde traditionnel vont naturellement venir liquider les plus petites lignes, notamment les lignes les plus volatiles. Par contre, dans un second temps, soit les crypto-monnaies vont être totalement corrélées, par exemple, au Nasdaq et à d'autres valeurs technologiques, par exemple, et à ce moment-là, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas justement dans cette phase, soit, bien qu'elles soient plus volatiles, elles vont réagir et elles peuvent être considérées par les investisseurs comme une réserve, et à ce moment-là, elles pourraient prendre de la valeur.
Récession possible, pression et enjeux réglementaires en ce moment, et signe avec cela. L'ouragan le plus fort cette semaine nous vient d'un stablecoin. C'est comme si en météo, un anticyclone nous apportait la tempête. Les stablecoins sont supposés stables. Là, l'un d'eux et un gros s'est effondré et a semé la zizanie dans l'écosystème. Le stablecoin UST, mesdames, messieurs, un des plus gros du marché et associé à la crypto-monnaie Luna, a perdu 90% de sa valeur pendant deux jours de suite. L'UST n'a pas réussi à tenir sa promesse de parité avec le dollar, plongeant même sous 23 cents. Pourriez-vous nous dire l'un et l'autre ce qui s'est passé? Chronique d'un effondrement. Comment un stablecoin a finalement perdu pied, Claire?
Alors, il faut bien voir que l'UST, c'est un stablecoin un peu à part. C'était le troisième plus grand en termes de capitalisation, mais il fonctionne pas exactement de la même manière que ses collègues qui sont classés au même niveau. Dans les stablecoins, il y a ceux qui sont basés sur un collatéral. Alors, un collatéral, par exemple, si je suis un stablecoin dollar, je peux avoir du dollar en réserve. Des titres financiers également basés sur le dollar en réserve, ou je peux avoir d'autres crypto-monnaies en réserve. La plupart des grands stablecoins aujourd'hui sont basés, collatéralisés par une réserve de crypto-monnaies, de titres financiers, de fiat. L'UST, c'est pas exactement ça, c'est ce qu'on appelle un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire que son cours va être maintenu par des mécaniques d'arbitrage et par un jeton de stabilisation, qui est en l'occurrence le Luna. Donc très concrètement, quand le cours de l'UST baisse un petit peu, vous pouviez toujours revendre votre UST contre un dollar de Luna. Et donc il y avait des mécaniques d'arbitrage qui se faisaient comme ça et qui permettaient au cours de se stabiliser. Sauf que l'UST a grandi très vite, un peu trop vite en fait, et finalement pour les créateurs de ce stablecoin, maintenir le PEG, donc cette indexation par rapport au dollar avec une capitalisation à 20 milliards, c'est pas comme maintenir le PEG à 20 millions. Et aujourd'hui les stablecoins algorithmiques, c'est encore relativement expérimental. Aucun stablecoin algorithmique n'avait encore atteint cette taille critique, et donc on s'est retrouvé dans une situation où finalement l'utilité de ce stablecoin, qui était relativement limitée, qui servait surtout en fait à aller toucher du yield, toucher 20% d'intérêt sur un protocole qui s'appelle Anchor. Finalement, ce stablecoin, il n'avait pas vraiment d'utilité à part cet intérêt-là. Et avec la baisse des cours générales sur le marché crypto, avec potentiellement des manipulations de cours, les rumeurs courent en ce moment, eh bien, le PEG n'a pas pu être tenu. Et donc, il a diminué petit à petit. Et ensuite, on a eu tout un mouvement de panique. Et les créateurs, la communauté autour de Terra n'a pas réussi à restabiliser ce PEG.
Owen, on parlera dans un instant de l'impact pour la finance décentralisée, pour les clients aussi de Just Mining. Juste avant, votre regard général sur ce qui s'est passé autour de ce stablecoin UST cette semaine. Owen.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que au tout début, c'est un utilisateur ou une poule d'utilisateurs qui a réalisé une grosse vente directement dans la DeFi. C'est-à-dire que des utilisateurs ont été vendre des UST contre un autre stablecoin, mais d'un coup, comme une vente au marché. Ce qui a très légèrement décalé le PEG en le faisant perdre quelques pourcents, mais qui, naturellement, aurait dû revenir à un dollar. La particularité, c'est qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à spéculer avec la quasi-certitude qu'il allait remonter à un dollar. C'était une bonne opportunité d'en acheter à quelques centimes de moins pour essayer de le revendre à un dollar, voire un petit peu moins s'ils avaient réussi à faire un profit. Tout de suite après ça, l'équipe de Luna Foundation a compris que le PEG n'allait pas revenir totalement parce qu'il y avait déjà des spéculateurs qui l'empêchaient et qui le revendaient avant qu'il atteigne les 1 dollar, empêchant le système de réguler naturellement son prix. Et donc, ils ont voulu injecter 1,5 milliard de dollars pour racheter et pour rétablir ce fameux PEG et remonter à 1 dollar. Ça n'a pas suffi, ça a continué à décrocher, la spirale en fait des spéculations a continué à se faire et naturellement à la fin, les gens ont commencé à acheter de l'UST qui était à moins d'un dollar pour obtenir un dollar de Luna et à vendre ce dollar de Luna pour pouvoir racheter de l'UST. Cette spirale qui aurait dû maintenir en fait et remonter rapidement parce que les gens venaient acheter massivement de l'UST pour le monter à un dollar avec l'ampleur de ces 20 milliards de valorisation, ça n'a malheureusement pas suffi, vu les ordres de certains traders qui sont venus et qui écrasaient leur position jusqu'à diminuer totalement la supply et donc la valeur de tous les Luna existants et empêchant ainsi la stabilisation du stablecoin.
Alors on ne parle jamais, Owen, dans ce rendez-vous des pros des cryptos de vos produits chez Just Mining, parce que c'est tout simplement pas le sujet, c'est un rendez-vous de pédagogie et d'éclairage. Mais là, on va faire un pas de côté et parler très exceptionnellement d'un de vos produits parce qu'il est symptomatique sans doute de cette actualité autour du stablecoin UST. Les clients de Just Mining étaient exposés au stablecoin UST via une offre de lending. On va, comme à chaque fois que vous vous exprimez dans les pros des cryptos, on va aborder le sujet de front, Owen. Est-ce que vous pourriez d'abord expliquer pourquoi cette chute de l'UST concerne certains de vos clients, les conséquences pour eux, et comment vous avez dû réagir chez Just Mining face à cette baisse de l'UST?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Just Mining, nous avons aujourd'hui un peu plus de 65 000 clients et 4 000 d'entre eux étaient positionnés sur ce produit de lending. C'est un produit de prêt de finances décentralisées. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre comment fonctionne ce produit. C'est la première étape. Dès qu'un utilisateur dépose des euros, des dollars ou n'importe quel stablecoin, la toute première étape, ça va être la diversification. On va le positionner sur différents stablecoins. On s'en autorise une dizaine, notamment les quatre plus gros, USDC, USDT, l'UST et d'autres comme le BUSD ou encore le DAI ou le Gemini USD. Naturellement, ça vient diversifier pour éviter le risque que tous les clients soient sur un seul produit et donc une perte totale en cas de problème exceptionnel comme celui que nous avons connu. La deuxième étape, ça va être ensuite de respecter un breakdown, c'est-à-dire que l'on va utiliser ces différents stablecoins pour les mettre sur différents protocoles de finances décentralisées avec un maximum de 30% sur un seul protocole. En l'occurrence, et en ce qui concerne le token UST, il y en avait 30% sur Anchor Protocol et il y avait 15% des fonds du produit positionnés sur une pool Curve, qui est l'une des plus grosses pools de finances décentralisées. Et dans cette pool Curve, il y avait 6,7 sur les 15% au total d'UST à l'intérieur. La troisième couche de ce produit de finances décentralisées, c'est le fait qu'une partie est soit sous assurance, soit en réserve. Et en l'occurrence, une partie des fonds déposés par les utilisateurs sont conservés en stablecoin, mais ne sont pas exposés à un quelconque protocole, parce que la plupart des défaillances viennent en général du protocole lui-même et du smart contract.
C'est important là. C'est la question de la diversification du produit, du lending qui est posée, Owen. Vous parlez d'une exposition à l'UST à hauteur de 30% d'une part et de 6% d'autre part sur encore, 6,7% je crois. Or, on a vu des communications sur une exposition de votre lending à l'UST bien supérieure, une exposition qui serait supérieure à 40%.
Alors, c'est ce que vous dites est totalement juste, mais à l'origine, le breakdown était bien comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans une pool de liquidité, quand vous avez différents stablecoins, quand il y a un manque de PEG, il y a un stablecoin qui perd de la valeur. Naturellement, la pool doit se rééquilibrer. Donc, elle utilise des autres stablecoins, en l'occurrence les USDC et les DAI de nos clients, pour racheter de l'UST. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu le premier PEG, et on en vient du coup au déroulé du coup de comment ça s'est passé, le 10 mai, dès qu'on a vu le premier des PEG, ça a reventilé une partie des fonds automatiquement dans la DeFi et ça nous a surexposé. C'est-à-dire qu'on est passé à plus de 40% d'exposition, même au-delà de 45% à un moment, et instantanément, on a pris la position d'utiliser une partie des fonds propres de l'entreprise pour non seulement redescendre en dessous des 40% d'exposition, et ensuite le geler. Parce que quand l'UST a pris l'intégralité de la poule en enlevant les autres stablecoins, on ne pouvait plus aller au-delà. Et donc, on a utilisé une partie des fonds pour racheter ces stablecoins qui avaient moins de valeur que les autres et pour reluer la poule des utilisateurs. À ce moment-là, l'équipe de Luna Foundation a communiqué, injecté 1,5 milliard pour essayer de rétablir le PEG. On a donc attendu quelques heures, mais quand on a vu que ça a continué à décrocher, on a lancé un plan exceptionnel d'urgence, tout simplement, pour pouvoir non seulement contacter les clients, c'est-à-dire rapidement les éduquer sur la situation et prendre des mesures d'urgence. La toute première a été d'injecter une deuxième fois des fonds propres de l'entreprise pour couvrir le manque de PEG sur cette partie du contrat à hauteur de $1,250 par client. Ce qui couvrait ainsi 73% de l'intégralité des clients de Just Mining qui étaient sur ce contrat. C'est-à-dire environ 3000 clients sur les 4000 positionnés étaient totalement sains sur leur position et il n'y avait plus que 27% des clients qui avaient une exposition et qui avaient un risque lié à la position que nous avions sur le produit de Lundi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, une communication complète parce que l'utilisateur devait comprendre rapidement. L'heure n'était pas à la panique mais à la position opérationnelle et il fallait très vite proposer des solutions. une communication complète pour que l'utilisateur puisse comprendre la position dans laquelle il est. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce n'est pas un produit de gestion discrétionnaire. Avec le cadre juridique que nous avons aujourd'hui, nous pouvons diversifier les fonds pour le client, mais nous ne pouvons pas prendre de décision en son nom et nous ne pouvons pas accepter de déboucler une position et d'enregistrer une perte. On devait donc très rapidement leur proposer une solution, donc un produit technique qui leur permettait de choisir d'enregistrer une perte ou de s'exposer plus en espérant que le token remonte à $1 et à ce moment-là n'enregistrer aucune perte. Ou alors, au contraire, sortir maintenant et limiter la perte au PEG qui était perdu partiellement par l'UST à ce moment-là. Communiquer, éduquer tout le monde pour que tout le monde puisse très rapidement prendre une position et créer une cellule, évidemment, d'information et de support parce qu'on savait qu'on allait recevoir énormément de mails, d'appels et de rendez-vous physiques. Une fois qu'on a repositionné tout ça, on a ouvert la possibilité aux clients de sortir sur ce produit ou de rester et d'accepter du coup la dévaluation possible de l'UST ou sa récupération de valeur sur du court terme. Et à ce moment-là, les clients ont commencé à prendre leurs décisions, ce qui a permis à la majorité de ces 27% de clients assujettis de sortir sur du très court terme. Les premiers sont sortis entre 17% de pertes sur ce produit qui était théoriquement stable, basé sur les stablecoins, et 8% pour ceux qui sont sortis en début de soirée. D'autres ont décidé de sortir le lendemain ou de rester en espérant que le PEG récupère une partie de sa valeur. En tout cas, le but était de très rapidement proposer une solution avant la perte potentielle de ce jeton et le fait qu'il pointe directement vers le $0.
C'est l'enjeu capital quand même et primordial, les clients, la façon dont ils sortent de tout ça. Et puis pour ceux qui n'avaient pas investi dans ce produit, les autres clients d'ailleurs de cette société, de votre société Just Mining, savoir si Just Mining du coup tient le coup et va tenir le coup, Owen.
Alors, totalement, hein. La société, bon, c'est un produit sur plus de 60 que nous proposons. Ça concerne du coup 1000 clients sur 65 000. Just Mining aujourd'hui est une très grosse machine qui couvre différents produits de différentes natures. Ça ne touche uniquement le produit de lending. Et naturellement, bien que nous ayons engagé des fonds propres, pour le coup, on n'était pas tenu de le faire contractuellement, mais ça faisait partie en fait de notre position morale. On veut être partenaire de nos clients et donc on se devait d'être en première ligne, en bouclier de cette solution exceptionnelle. Il s'agit de l'un des trois plus gros stablecoins de tout l'écosystème. C'était le deuxième écosystème de finances décentralisées au monde. Notre produit de lending y était évidemment assujetti. Et donc, on se devait d'être en première ligne avec eux. Malgré tout, on a engagé une partie de la trésorerie qui ne remettait en aucun cas en cause un quelconque autre produit du site internet, de la plateforme et même de l'exécution et de l'exploitation du reste de la structure. Naturellement, c'est un coût pour beaucoup, parce que nous étions à la fois investisseurs sur ce produit, parce que c'était la structuration que nous avons conçue et en laquelle nous avions le plus confiance avec un maximum de diversification. En tant qu'entrepreneur, naturellement, on prend du recul. Just Mining exerce depuis plus de 5 ans. Nos clients sont déçus, mais naturellement, ont compris la perte étant donné l'ampleur que ça a eue sur l'écosystème. La plupart des clients savaient qu'ils étaient exposés à ces risques-là. Les autres les ont compris. On a toujours été très clair sur toutes ces choses-là. Donc, naturellement, ça ne remet pas en cause l'intégralité du fonctionnement de Just Mining aujourd'hui, mais c'était un coup car il faut bien comprendre une chose, c'était une ligne sur laquelle quand on rentrait, bien que les risques existaient, on ne se positionne pas sur un stablecoin pour un risque de volatilité et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, d'où la situation exceptionnelle qui nous a obligés à prendre des mesures exceptionnelles également.
En quelques secondes quand même, quelles leçons est-ce que vous en tirez pour la suite? Est-ce qu'il va falloir accepter de promettre quand même moins de rendement aussi? Quels enseignements, quels impacts sur vos choix futurs, Owen?
Alors, on a des pistes de réflexion évidemment sur comment est-ce que l'on peut reconstruire un nouveau produit, mais pour être totalement franc, l'heure est à l'opérationnalité. On doit être disponible pour nos clients, on doit prendre des décisions et il faut plus de recul pour être capable d'en tirer les bonnes conclusions et de, pourquoi pas, recréer un produit qui va être plus solide vis-à-vis de ces choses-là. Mais pour être totalement franc avec vous, quand le troisième plus gros stablecoin de tout l'écosystème perd l'intégralité de sa valeur en 72 heures, on peut en tirer certaines leçons, mais ce genre d'impact et ce genre de problème aura naturellement des répercussions sur les produits de finances décentralisées et de lending stablecoin.
Claire, ce stablecoin UST, alors c'est du stablecoin algorithmique, oui. Vous nous disiez, donc avec des doutes qui existaient quand même sur...
Un risque plus élevé, disons, voilà. Que d'autres stablecoins.
Ouais. Et est-ce qu'on peut se dire à travers aussi cet exemple qu'il y a une forme d'effet Lehman Brothers pour la finance décentralisée à travers la chute de l'UST? Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Est-ce que c'est Lehman de la crypto qu'on est en train de vivre?
Alors, c'est un très gros événement. très clairement. J'irais pas jusqu'à dire que c'était un Lehman Brothers parce que ça sous-entendrait que ça a un impact systémique sur toute la DeFi, sur tout le marché des cryptos. Ça a bien sûr des conséquences. Owen parlait tout à l'heure de Curve, qui est un échange décentralisé de stablecoin. Donc forcément, la dévalorisation de l'UST a déréglé certains pools de liquidités, hein, qui se sont retrouvés avec beaucoup trop d'UST, plus assez d'USDC, plus assez de DAI. Donc comme dans la DeFi, tout est imbriqué, forcément ça a des conséquences. Maintenant, je pense qu'il faut aussi être rassurant. Aujourd'hui, on a vu la blockchain Terra qui s'est effondrée, on a vu Luna qui s'est effondrée, on a vu ce stablecoin qui s'est effondré. Je pense de mon côté que la catastrophe va être limitée, si on peut le dire comme ça, à l'écosystème Terra et ne va pas causer d'autres catastrophes systémiques dans l'écosystème Ethereum, par exemple. Maintenant, ça va aussi pousser les gens à être un peu plus conservateurs. C'est vrai que Terra, c'était un projet qui était jeune, en tout cas beaucoup plus jeune qu'Ethereum, qui avait grandi très vite. Et donc là encore, il faut prendre du recul quand des projets grandissent aussi vite. Et toujours se méfier, évidemment, quand on investit dans ces projets, n'investir que ce qu'on est prêt à
perdre. Exactement, et ça on le répète toujours dans les pros des cryptos, n'investir que l'argent dont on n'a pas besoin, c'est la clé. Hein. Ça permet de mieux vivre, hein, tout simplement. Mieux vivre les choses et tout ce qui se passe. Voilà, toujours, voilà, exactement. On est comme sur le pont d'un bateau, il faut toujours pouvoir regarder l'horizon. Si vous ne voyez plus l'horizon, c'est... Voilà. Donc toujours regarder au-delà de ce que l'on investit. Est-ce que vous achetez le scénario d'une attaque qui aurait eu lieu sur ce stablecoin UST?
Alors c'est très compliqué parce que aujourd'hui on est encore un peu dans le feu de l'action, donc on peut pas savoir exactement ce qui s'est passé, mais sincèrement mon opinion c'est que attaque ou pas attaque, en fait ça importe peu, puisque l'objectif d'un stablecoin décentralisé algorithmique, c'est de résister à la centralisation, oui. C'est de résister à des attaques, à des manipulations de marché, à des baisses de cours, et donc que ça a été causé par une attaque, par une baisse de cours, par autre chose ou par un peu de tout ça. Finalement, c'est pas très important. Et c'est vrai qu'il y a un effet cercle vicieux, parce que quand vous avez un stablecoin qui se dépègue, ne serait-ce que d'un tout petit peu, et qui n'arrive pas à se repéguer très vite, eh ben en fait, c'est très difficile pour lui de rester à niveau, et donc il peut s'effondrer effectivement très vite avec des mouvements de panique.
On peut se dire que le Bitcoin en profitera, que l'image du Bitcoin face à certains stablecoins ou altcoins tout simplement va sortir grandi. Les maximalistes, là je les vois sur les réseaux sociaux, se lécher les babines, c'est un grand mot, mais profiter de cette situation pour dire, voyez, il n'y a que le Bitcoin qui puisse promettre une solidité absolue.
Effectivement, eux vont vous dire, bon, écoutez, c'est sympa tous ces tokens, c'est sympa tous ces stablecoins, mais finalement, ce qui technologiquement aujourd'hui est stable et ne bouge pas ou très peu, c'est Bitcoin. Et effectivement, Bitcoin est là depuis beaucoup plus longtemps. Bitcoin, c'est le roc de la crypto, il ne bouge pas. Et donc forcément, les anciens de l'écosystème, qui en ont connu quand même quelques autres, hein, des catastrophes, même si celle-ci est particulièrement salée, vont dire, rappelez-vous, dans les projets qui sont jeunes, qui sont relativement immatures, il peut y avoir des catastrophes. Et dans les jeunes projets, quand un token perd 90% de sa valeur, il peut encore perdre 90% de sa valeur. Bien sûr. Et donc, il faut être prudent, il faut être lucide. Et les blockchains qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans, sont généralement plus matures, plus solides que celles qui sont là depuis seulement 1, 2, 3, 4 ans.
Bon, alors c'est Jacques Chirac qui disait, pardon pour la vulgarité, hein, les emmerdes, ça vole en escadrille, c'est lui qui le disait, notre ancien président. On parlait de la chute de l'UST à l'instant, stablecoin au pied d'argile, finalement l'UST, mais un autre stablecoin encore plus gros, l'USDT, controversé depuis des années, a également perdu son arrimage au dollar. Ça a duré quelques heures hein, seulement cette semaine. Toute la communauté crypto a suivi ça avec angoisse. Owen, si l'USDT venait à s'effondrer lui aussi, quelles seraient les conséquences pour l'écosystème?
Alors, l'USDT fonctionne encore bien différemment des autres, donc c'est encore une autre question. Mais si l'USDT venait à perdre son PEG, et ça s'est passé du coup pendant quelques heures, hein, pendant un court instant, il a perdu 8% de sa valeur, là, ça affecterait, de par l'omniprésence de l'USDT dans toute la finance décentralisée et dans la poche de la plupart des investisseurs crypto, peut-être à plus de 80 ou 95% des occurrences, là, ça aurait été désastreux. Alors, peut-être pas forcément pour le Bitcoin, au contraire, et les quelques grosses crypto-monnaies qui sont indirectement loin de l'écosystème de la finance décentralisée, mais pour le coup, ça aurait fait énormément de mal à l'intégralité des protocoles et tout ce qui proposait des services financiers décentralisés. La plupart de ces écosystèmes reposent sur de la liquidité et des stabilisations par liquidité, tout ce qui était protocole de prêt-emprunt. Là, on aurait été sur une perte bien plus violente que celle qu'on a pu enregistrer, et même les meilleures mesures limiter l'impact sur le capital total auraient été désastreuses, voire auraient liquidé par réajustement de tous les autres stablecoins et par dérèglement des autres mécanismes de PEG auraient pu littéralement impacter la plupart du marché, tout simplement.
Bon, finalement, ça n'aura duré que peu de temps. L'USDT, son désarrimage au dollar, ça va quand même sans doute inspirer les régulateurs. Ils vont vouloir réguler encore plus. Là, ce qui se passe va apporter l'eau au moulin à ceux qui voudraient réguler de façon très stricte cet écosystème.
Ça donne du grain à moudre à tous les anti-crypto, effectivement. Forcément, quand il y a une catastrophe comme ça, tous ceux qui veulent alors soit réguler beaucoup plus, soit expliquer qu'il avait bien dit la crypto-monnaie ça vaut zéro, vont se servir de cet événement pour appuyer leur raisonnement. Mais il faut bien se rendre compte que c'est un événement bien sûr dramatique pour la communauté, notamment la communauté Terra, mais ça ne remet absolument pas en cause les fondamentaux techniques derrière les plus grandes crypto-monnaies et notamment Bitcoin.
Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés, les pros des cryptos. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Owen Simonin nous accompagnait aussi. Sa chaîne YouTube Asher et sa société Just Mining, on a beaucoup parlé des conséquences pour les clients de ce produit de lending que vous proposiez, Owen. Et Xavier nous accompagne aussi, Xavier Fenot, associé pour Interactive Trading. Bonne soirée à tous les trois. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour sur les marchés financiers. Ça se passe très bien. Très beau vendredi 13, où les marchés tentent de prendre leur chance. On a un CAC 40 qui gagne plus de 2% encore en ce moment. À tout de suite.